Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Aujourd'hui, à Canal Académie, l'historien Jean Delumeau, professeur au Collège de France entre 1974 et 1994, membre de l'Institut depuis 1988, nous fait l'honneur de nous présenter son dernier ouvrage, « À la recherche du paradis », paru chez Fayard en novembre 2010. Jean Delumeau, merci d'être avec nous.
Merci de m'accueillir.
Parmi vos terrains favoris d'exploration en histoire, il y a l'histoire de la Renaissance, celle de la Réforme et de la Contre-Réforme, celle de la peur en Occident, l'histoire du péché, celle du christianisme et bien sûr, celle du paradis. Après avoir étudié le péché, la peur, le sentiment d'insécurité, il vous a paru cohérent de vous pencher sur l'étude du paradis en historien des mentalités religieuses en Occident. Vous avez écrit une magistrale histoire du paradis en 3 volumes au début des années 2000, Le Jardin des Délices pour le tome 1, 1000 ans de bonheur pour le tome 2 et Que reste-t-il du paradis pour le tome 3. À cette trilogie, il convient aussi d'ajouter le livre intitulé Le paradis, où vous avez décodé une centaine de représentations paradisiaques. À cette belle série qui a dépassé le seul cercle des historiens, s'ajoute dorénavant votre dernier ouvrage, À la recherche du paradis. Vous avez, Jean Delumeau, consacré à peu près 30 ans de votre vie à ses travaux sur le paradis. Jean Delumeau, oserais-je vous demander, est-ce une histoire d'amour entre vous et le paradis ?
Amour, c'est trop dire, je dirais plutôt une histoire d'espérance. Une histoire d'espérance, mais sur un chemin qui a été long à parcourir. Car en rappelant précisément les étapes que vous avez énoncées tout à l'heure, j'indiquerai que j'ai commencé par une histoire de la peur. Parce que, tout bonnement, il n'y avait pas d'histoire de la peur, du moins sur un grand espace et une grande période. Donc j'ai tenté une histoire de la peur. Et quand j'ai eu terminé La peur en Occident, en 1978, je me suis aperçu que je n'étais pas du tout au bout de mes peines. Parce que je n'avais pas traité dans La peur en Occident d'une peur particulière que j'ai appelée la peur de soi. La peur de soi comme pécheur, ce pécheur pouvant se condamner lui-même à l'enfer. Donc j'ai consacré un gros livre au péché et la peur, quelle culpabilisation en Occident. Mais je m'étais en quelque sorte promis à moi-même, si Dieu me prêtait vie, de ne pas en rester à la peur. Donc c'est mon itinéraire que là je déroule, et sur une intuition d'ailleurs de Lucien Febvre, un des créateurs de l'école des Annales, je me suis attelé à l'histoire du sentiment de sécurité, car il écrivait dans un compte-rendu d'article sur un livre sur les assurances, il écrivait « Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une histoire du sentiment de sécurité ?» Alors dans le même espace et dans la même période chronologique, j'ai étudié l'histoire du sentiment de sécurité en Occident sous le titre « Rassurer et protéger », livre paru en 1989, et suivi d'un appendice, mais qui méritait quand même d'être mis à part, intitulé « L'aveu et le pardon ». Mais un collègue qui a d'ailleurs été ici, mon confrère à l'Institut, Michel Molla, dont j'étais le voisin dans la salle des séances, m'avait dit un jour « Mais quand est-ce que vous ferez l'histoire de l'espérance ?» Et je lui avais répondu « Ça viendra ». Et c'est venu.
C'est en 88 que vous avez été élu à l'Académie.
Oui, oui. Donc c'était un peu après. Si vous voulez, après la sortie de Rassurer et protéger. Et il m'a dit, Delumeau, quand est-ce que vous écrirez une histoire de l'espérance ? Et je me suis dit qu'il avait tout à fait raison. J'y pensais d'ailleurs, mais de façon confuse. Or, il y a une logique. La peur entraîne le besoin de sécurité. Mais la sécurité est nécessaire au bonheur, mais le bonheur, c'est plus que la sécurité. Par conséquent, il y avait place pour l'espérance du bonheur. Et là encore, je ne croyais pas que la route serait si longue, mais il s'agit d'abord de la nostalgie dans notre histoire occidentale, parce que tout ça, ce sont des livres d'histoire. Il s'agit de la nostalgie du paradis terrestre dans notre histoire occidentale, puis de l'espérance de faire revivre ou de faire vivre un paradis sur Terre. Espérance qui a été au fond de tous les courants millénaristes, depuis l'Apocalypse jusqu'à nos jours, y compris le marxisme. Après quoi venait logiquement l'espérance d'un bonheur dans l'au-delà. qui a fourni donc la dernière partie de cette enquête sur le paradis, c'est-à-dire, pour nous en Occident surtout, ou pour les religions du livre, un paradis postérieur à la résurrection. Voilà.
Alors, qu'avez-vous voulu proposer à vos lecteurs avec ce dernier ouvrage, « À la recherche du paradis » ?
Alors, c'est un problème de relation, je précise, amicale, très amicale, même entre l'éditeur, qui est Fayard, et moi. En effet, mon histoire du paradis en 3 volumes est une histoire très fouillée dans les détails. C'est-à-dire qu'avec, il faut le dire, de nombreuses lectures, et je prends le temps d'écrire. Hein. Et donc, de très nombreuses lectures, de très nombreuses allusions à des œuvres peintes, sculptées, musicales, etc. Donc, avec, si vous voulez, pas mal d'érudition. J'espère quand même avec une écriture très lisible. Mais on m'a dit chez Fayard, mais pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas d'élargir votre public ? C'est-à-dire de vous adresser à monsieur et madame tout le monde pour des sujets qui, de façon ou d'une autre, intéressent beaucoup de gens. Alors ceci donc, sans érudition, sans notes, et simplement une courte bibliographie à la fin de chaque chapitre. Donc j'ai procédé, je ne dirais pas à des copier-coller, mais plutôt à une réécriture. Une réécriture des 1200 pages précédentes en 400. Et de façon à ce que ça soit constamment accessible à des gens qui non seulement ne sont pas des historiens, mais ne sont pas non plus des intellectuels de métier. Il s'agit d'un sujet, énorme finalement, un beau sujet, qui peut intéresser beaucoup de gens. Alors, je me suis plié à cette exigence, je l'ai acceptée, je l'ai faite mienne, et en outre, j'ai voulu m'investir davantage personnellement. Car comme je vous le disais tout à l'heure, mes livres, jusqu'à présent surtout, étaient des livres d'histoire. Là, ça reste un ouvrage historique, mais où je m'investis personnellement.
Surtout dans la deuxième partie, voilà, dans l'introduction déjà, bien
voilà,
sûr.
Voilà, mais dans l'introduction déjà, qui raconte alors une anecdote personnelle avec mes petits-enfants. Mais d'autre part ensuite, dans le chapitre qui fait transition entre la fin de l'espérance du paradis sur Terre et l'espérance d'un au-delà de bonheur, voyez-vous. Alors là, justement, j'ai essayé de regarder un peu philosophiquement, existentiellement, où nous en sommes aujourd'hui de nos espérances du 19e et du début du 20e. Et ces espérances, nous le savons, vous et moi, elles se sont écroulées.
Alors donc, de la peur au paradis,
c'est un long chemin. En termes de temps de travail, ça fait 30 ans.
Oui, 30 années de votre vie, c'est beaucoup. Alors, excusez-moi de vous le demander, on vous l'a déjà demandé de nombreuses fois, mais à quand remonte alors l'idée du paradis ?
Alors, le mot paradis est un mot grec, paradaisos, qui vient du persan. Et ce mot persan signifie un jardin. Un jardin est même plus précisément entouré par des murailles contre les vents brûlants desséchants du désert. Donc, à l'origine, il s'agit d'un jardin. D'ailleurs, dans la Genèse, qui pour toutes les religions du livre a été le point de départ de tout ce qui a été écrit sur le paradis, dans la Genèse, il s'agit d'un jardin, je dirais enchanté ou enchanteur plutôt, d'un jardin enchanteur à l'intérieur du pays d'Éden, qui est lui-même presque un pays de cocagne. Mais à l'intérieur, il y a un jardin d'où sortent toutes les eaux douces du monde. Voyez-vous ? Et dans ce jardin protégé, d'abord on ne meurt pas, le travail ne fatigue pas, on ne vieillit pas. Et on serait passé, si vous voulez, sans heurts, de la vie à l'immortalité. Voilà. Voilà ce qu'était le jardin des origines. Alors, dans la tradition judéo-chrétienne, finalement, notamment dans la Bible, Premier Testament puis Second Testament, il est assez peu question d'Adam et Ève et du jardin. Il en est question, mais pas énormément. Et ça n'a pas du tout été, si vous voulez, fondamental dans la pensée du judaïsme ancien. En revanche, une sorte de messianisme s'est substitué à l'idée d'un retour au jardin primitif. Notamment, les poèmes d'Isaïe, par exemple, adressant aux gens de la captivité de Babylone, leur dit « Mais nous allons revenir chez nous, la terre où coule le lait et le miel, et où l'eau est partout. »
Vous ne faites apparaître que la figure d'Adam et Ève que vers la page 60,
oui.
Volontairement, parce rappeler peut-être.
C'est pas vraiment volontaire, mais je les ai d'ailleurs surtout trouvés, si je veux dire, Adam et Ève, à partir du moment où la théologie chrétienne, ce qui n'est pas le cas de la théologie de l'Ancien Testament juif, mais la théologie chrétienne s'est interrogée sur l'importance du péché originel. Et je signale tout de même que l'expression « péché originel » est totalement absente des évangiles. Je ne sais pas si les gens s'en aperçoivent ou le réalisent. En réalité, le véritable fondateur de la doctrine traditionnelle, je pèse mes mots, du péché originel, c'est saint Paul. Mais la notion de péché originel est absente des évangiles, est absente des épîtres autres que celles de saint Paul et des actes des apôtres.
Vous avez tout un chapitre consacré uniquement à
justement
à
parce
ça,
que tellement c'est parce important. Que là j'ai l'impression de m'adresser directement à mes contemporains. Alors l'expression, et j'ajoute à titre personnel, mais en fait qu'historien aussi, que la notion de péché est très présente dans les évangiles, naturellement, comme d'ailleurs dans toute l'histoire d'Israël. La notion de péché est très présente, mais dans les évangiles, quand Jésus parle du péché, ce sont toujours des péchés personnels. Il n'est pas question. Jésus, à plusieurs reprises, a refusé la notion de péché et de culpabilité héréditaire.
Vous dites qu'il a parlé du péché du monde et jamais du péché originel.
Voilà.
Jean Delumeau, à quoi ressemble, vous nous l'avez un petit peu décrit, le paradis, mais comment s'est traduit cette belle espérance dont vous nous parliez dans les arts?
Il y a quelques... parlez-vous du paradis terrestre ou du paradis dans l'au-delà?
Nous n'avons pas terminé, effectivement, dans l'au-delà, pour les arts.
Alors, il s'est passé, effectivement...
On reviendra au paradis terrestre et
voilà.
À cette quête.
Alors, de toute façon, il s'est passé dans le discours sur le paradis et dans l'iconographie s'y rapportant. Il s'est passé, si vous voulez, un itinéraire progressif, un déménagement progressif d'un paradis terrestre à un paradis céleste. Mais il faut savoir tout de même que, encore chez saint Thomas d'Aquin, mais à plus forte raison chez les pères de l'Église, quand il est question du paradis, il est question du paradis terrestre, pas du paradis céleste. Mais progressivement, il y a eu une émigration, en quelque sorte iconographique notamment, du paradis terrestre à un paradis céleste, et il a paru... très normal de l'imaginer comme un jardin des délices perpétuels. Le premier texte que j'ai trouvé, le premier texte chrétien, où le bonheur éternel est décrit comme dans un jardin, c'est au milieu du IIIe siècle, chez saint Cyprien.
Et puis, comment travaille justement l'historien sur toutes ces sources pour faire revivre ce que vous appelez un irréel du passé ?
Et réel du passé. Oui. Alors, le travail de l'historien, c'est d'abord ce que disait très bien un de mes professeurs de Sorbonne, Roland Mounier, autrefois. Il disait, le travail de l'historien commence par le questionnaire. Et c'est vrai pour tous les sujets, pour tout le travail historique. On commence d'abord à se poser des questions à soi-même sur les sujets, qui s'enchaînent d'ailleurs souvent les uns les autres, qui vont se présenter successivement à vous, l'auteur, le metteur en scène. Une fois qu'on a délimité les questions... on délimite la bibliographie se rapportant à chaque question. Et je dirais qu'il y a bien souvent une bibliographie particulière pour chaque chapitre, compte tenu de la variété des sujets traités. Donc, il faut procéder plutôt très méthodiquement, je dirais lentement, et donc, disons-le, il faut beaucoup lire. Beaucoup lire. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'utilise pas dans ce qu'on a lu. Mais enfin, il faut qu'on ait un large éventail de sources, d'autant plus que le type d'histoire que j'ai faite, ce type d'histoire, quand je suis entré au Collège de France, on parlait beaucoup d'histoire des mentalités. Maintenant, on parle plutôt d'histoire culturelle. Je dirais peu importe. Peu importe l'étiquette. L'important, effectivement, c'est, pour moi, comme historien, c'était voir comment avait été vécue la peur, l'espérance terrestre ou l'espérance dans l'au-delà, comment ça avait été vécu durant les périodes successives de notre histoire. Donc, je dirais que, je ne cache pas que je suis croyant et catholique, mais je dirais que mes livres auraient pu être écrits par quelqu'un qui ne serait pas croyant.
C'est le métier d'historien.
C'est le métier d'historien.
Vous expliquez la place centrale que le paradis a occupée dans la culture médiévale
oui.
Et
alors,
la culture de l'époque
aussi,
moderne.
Oui, alors cela, m'a... Ça, excusez-moi, pardon.
Allez-y, je vous en
cela m'a permis justement d'aller à l'encontre d'une idée reçue. Parce que, bien souvent, on a pensé, jugé, estimé que le christianisme avait mieux réussi, si j'ose dire, l'enfer ou le purgatoire que le paradis. C'est un jugement notamment que l'on porte sur la Divine Comédie de Dante où les pages évidemment les plus pittoresques concernent l'enfer et le purgatoire. Mais on oublie, à propos de Dante par exemple, que le paradis, il est plus difficile, c'est vrai, mais la lumière et la musique... il comporte une place considérable. Et par conséquent, le paradis de Dante, lui aussi, mérite grandement l'attention. Et alors, si on élargit le propos, on s'aperçoit que le paradis terrestre, d'une part, mais le paradis de l'au-delà, ont tenu une place considérable dans l'histoire et dans les arts de l'Occident. En revanche, d'une part, le thème du jardin transporté dans l'éternité est un thème pictural, incontestablement. Mais en outre, j'ai fait entrer dans mon paradis, si j'ose dire, j'ai fait entrer le thème des anges musiciens, le thème de la Vierge à l'enfant entouré par la cour céleste. Et la cour céleste elle-même fait évidemment partie des évocations paradisiaques. De même, les chants de Noël sont des chants de paradis, ou les pièces consacrées à Noël. Pensez alors, non plus aux chants folkloriques, mais pensez au Messie de Handel. Le Messie de Handel, qu'est-ce que c'est, hein ? C'est un Noël. C'est un Noël, et j'ai défini le Noël, si vous voulez, de mon point de vue, comme, comment dirais-je, une irruption paradisiaque d'un jour dans la grisaille de la vie quotidienne.
Après l'évocation des anges musiciens, est-ce que vous pourriez nous décrire, à vos yeux, quelle est la représentation dans les arts qui représente, peut-être pour vous, qui en avez vu beaucoup, qui représente le mieux ce paradis?
Oui, alors justement, oui, vous me posez
laquelle
une question.
Laquelle choisiriez-vous, si j'ose dire?
Il y en a beaucoup que je prendrais, mais enfin, puisqu'il faut en choisir une, je prendrais celle qui est peut-être la plus synthétique de toutes, c'est-à-dire le polyptyque de Gand. Le polyptyque des frères Van Eyck à Gand, qui a été réalisé dans les années 1430-1432, et qui me paraît une synthèse à la fois picturale et théologique et poétique, tout cela à la fois, de l'idée que l'on s'était faite du paradis chrétien. Alors, je rappelle que ce polyptyque a une histoire tourmentée, puisqu'il a failli disparaître durant ce qu'on appelait les furies iconoclastes du XVIe siècle. Il a fallu disparaître durant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands l'avaient enlevé et que les soldats américains l'ont retrouvé par hasard dans une mine de sel en Styrie.
Ce que vous racontez.
Voilà. Mais alors, cette œuvre s'appelle « L'agneau mystique », mais seulement depuis le XVIIe siècle. On ne sait pas quel était son titre original. Et à mon avis, et j'invite les lecteurs quand ils se reporteront au livre, je les invite à regarder cette œuvre, à mon avis, c'est une Toussaint. C'est-à-dire que l'œuvre se situe après le jugement dernier. Et les saints se rassemblent dans le paradis et qui va les accueillir de façon définitive. Ce paradis qui est à la fois le jardin des délices promu à un statut d'éternité, avec autour des bâtiments assez somptueux mais qui sont lointains, qui représentent la Jérusalem céleste.
Là, on a
et
vraiment...
au milieu, il y a alors l'autel de l'agneau. C'est les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, hein. Donc, on aurait pu aussi l'appeler l'Apocalypse de Gand, hein, voyez-vous. Mais cet Apocalypse de Gand, c'est la Toussaint. C'est le rassemblement des élus par catégorie qui viennent autour de l'autel de l'agneau et de la fontaine de l'agneau mystique qui représentait, si vous voulez, la source de vie au paradis terrestre, voyez-vous. Donc, c'est le rassemblement. Et alors, autour d'un grand prêtre qui est à la fois Dieu le Père et le Fils. C'est à la fois les deux. Hein. Les commentateurs sont d'accord sur ce point. Et entre Marie et Jean-Baptiste. Alors ça, ce thème du juge entre Marie et Jean-Baptiste vient de l'iconographie byzantine. C'est ce qu'on appelle la déicis. Alors, dans la déicis qui existe dans presque toutes les églises byzantines, le juste juge est entouré de Marie et de Jean-Baptiste. Marie et Jean-Baptiste qui supplient le juge pour les humains. Mais là...
Et là, c'est pas ça.
C'est pas ça. Marie lit un livre d'heures. Et Jean désigne le sauveur. Donc, le jugement est terminé. Et les élus se rassemblent. Et à côté des élus, tout naturellement, à l'époque déjà où se situe cette œuvre, eh bien, il y a des anges chanteurs et des anges musiciens.
Puis il y a cette dominante du vert pour
alors,
l'œil.
La dominante du vert,
même...
c'est évidemment le paradis terrestre devenu éternel. Hein.
Qui
Mais
est...
à l'intérieur du très vaste enclos de la Jérusalem céleste. Je précise pour ce qui est de la prairie paradisiaque que les botanistes à la loupe, dans la prairie, ont repéré, très finement décrit, une cinquantaine de plantes, très différentes les unes des autres. Et puis, bien entendu, les arbres sont toujours verts. Il n'y a pas d'été, il n'y a même pas d'automne, etc. Les arbres sont toujours verts.
Toujours en fruits.
Et voilà, à la fois fleurs et fruits. Hein, et puis, les fleurs sont toujours en fleurs.
Il y a aussi, j'ai trouvé très très beau, à Lille, le chemin du ciel ou l'annonciation des élus.
C'est l'entrée des élus dans le domaine paradisiaque. Alors, c'est un thème justement qui a été presque favori des artistes du 15e et de la première moitié du 16e siècle et qui a été, alors là je ne sais pas si on le voit, mais qui a été concomitant du point de vue chronologique de la montée de la musique dans la civilisation occidentale. Il y a eu de plus en plus de concerts d'anges. Hein. Et alors avec des sommets. Des sommets, par exemple, en Lombardie, il y a une église où il y a des chœurs célestes, chanteurs et musiciens. Il y a 140 participants en peinture. C'est extraordinaire. Et donc, si vous voulez, pour résumer d'un mot, à l'époque, disons, de la Renaissance au sens large, il devenait impossible d'évoquer le pareil, l'au-delà, sans évoquer la composante musicale.
aussi l'idée d'une espérance dans un monde meilleur, hein, sur lequel vous...
Alors,
sur
Terre.
Oui,
alors justement, je ne l'avais pas prévu au début en me lançant dans l'histoire d'abord du paradis terrestre. Je n'avais pas prévu que ça allait mener dans les paradis terrestres futurs. Et oui, et or, à partir, disons, déjà des utopies du XVIe siècle, Thomas More, etc., Campanella, et puis, à plus forte raison, avec la naissance de la notion de progrès, à la fin du XVIIe siècle surtout, alors, on a bel et bien conçu qu'on pourrait peut-être être heureux sur Terre. Idée qui ne venait pratiquement pas à nos ancêtres du Moyen-Âge.
Alors, comment ce rêve commun de paradis a-t-il été remis progressivement en cause ?
Alors, les gens de ma génération l'ont vu remettre en cause. C'est déjà été la guerre de 14. La guerre de 14 que tout le monde croyait que ça allait être une guerre courte. Elle a été longue, avec des millions de morts. Et du moins, les gens qui ont survécu tout de même à la guerre de 14 ont pensé que ce serait, entre guillemets, la der des ders. Et entre 1918 et l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, on a pu croire que la guerre de 14 avait été la guerre des ders. Enfin, la dernière des dernières, vous comprenez. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Car la guerre de 39-45 avait fait un nombre de morts inimaginables, avec les atrocités que l'on sait, dont les plus dures ont été celles de la Shoah. Et puis, les guerres qui se sont succédées depuis la fin. Alors, car si nous avons la paix en Europe, heureusement, Dieu merci, en revanche, elle ne règne pas dans beaucoup de pays du monde. Par conséquent, et puis on s'est aperçu que le progrès technique et même le progrès de l'instruction, et surtout le progrès technique dans lesquels on avait mis énormément d'espoir, servait aussi bien à la destruction qu'à la construction de l'humanité. Maintenant, on sait qu'avec les arsenaux nucléaires, on peut faire disparaître la planète. Par conséquent, comment rester optimiste ? Par conséquent, et ça c'est un repli sur le pessimisme que j'ai ajouté dans le livre qui vient de sortir, que j'ai ajouté à mon histoire précédente du paradis.
Ce sont des réflexions.
Les questionnements qui sont venus à partir de la conjoncture que nous vivons actuellement. On dit que les Français sont pessimistes, et peut-être plus que les autres. Mais quoi qu'il en soit, les Occidentaux, maintenant, enfin, ne sont pas optimistes sur l'avenir. Ils espèrent, j'espère avec eux, qu'on va arriver à trouver des solutions à l'étage planétaire et adoucir la vie quotidienne de beaucoup de gens. Mais enfin, pour l'instant, nous sommes, le moins qu'on puisse dire, en état d'alerte.
Vous écrivez « L'optimisme n'est pas une lâcheté, mais à condition d'être doublé de lucidité ».
Oui, l'expression « l'optimisme est une lâcheté » était une formule de Schwengler, déjà à la fin de la guerre de 18. Bon, et cette formule, je ne la fais pas mienne. Néanmoins, il nous faut...
Oui, mais vous y répondez, on va dire.
Voilà. Et aussi, j'ai repris une formule à l'emporte-pièce du philosophe autrichien, Musil.
Que vous citez beaucoup.
Qui est mort.
Un écrivain que vous
aimez. Qui a été spécialement étudié, d'ailleurs, par mes collègues du Collège de France, Bouveresse, c'est lui qui m'a alerté sur l'œuvre de Musil. Et Musil a eu cette formule que, je veux dire, j'ai un peu isolée dans son œuvre, mais tout de même qui est intéressante, quand il dit « l'homme est capable de tout, même du bien ». C'est une formule qui, entre parenthèses, quand je la cite, fait toujours sursauter. On ne s'attend pas.
Ben oui, on attend le mal,
voilà.
Comme on attend l'enfer quand on parle du paradis.
Voilà.
Justement, c'est une autre image du paradis que vous avez voulu
livrer. Mais en même temps, si vous voulez bien, on va supprimer le mot « image ». Parce que nous ne pouvons plus imaginer le paradis. Car notre paradis, l'au-delà, classique, il avait été inséré dans une cosmographie hérité d'Aristote et du cosmographe grec Ptolémée au second siècle de notre ère. Et le paradis était situé dans l'Empyrée, c'est-à-dire la sphère cristalline et immobile, enserrant toutes les sphères du monde qui, elles, tournent. Bon. Et ce qui voulait dire d'ailleurs, par voie de conséquence, qu'au-dessous de la Lune, et c'était le monde de l'agitation, de la corruption, du changement, et au-delà de la Lune, et jusqu'à l'Empyrée, on était dans les sphères de la pureté, les sphères cristallines. Tout ça, ça a été mis par terre. Parce qu'en plus, tout ça tournait autour de la Terre. Copernic, puis Galilée, Kepler, Newton. Alors, d'où la question que j'avais posée, ou plutôt l'affirmation, ou la question comme vous voulez, que reste-t-il du paradis ? C'est-à-dire, simplifiant, que reste-t-il du paradis depuis Galilée ? Et on ne peut plus le localiser. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus le localiser. Vous ne pouvez même plus l'imaginer. Alors là, vous m'avez posé tout à l'heure une question sur la méthode en histoire. Or, à la fin de cette longue enquête sur le paradis, je fais un retour en arrière, un petit peu comme au cinéma, si vous voulez. Je fais un retour en arrière pour montrer que, d'abord, Jésus n'a pas employé le mot paradis. sauf dans un cas très précis qu'on peut expliquer si vous voulez, mais il ne vise pas le paradis définitif. Donc Jésus, en réalité, n'a pas parlé du paradis, il a parlé constamment du royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, il ne l'a pas décrit.
Oui, vous
il n'y a aucune description du royaume des cieux, simplement c'est une situation où chacun aimera l'autre. Et où seront récompensés celui qui est allé visiter le malade, celui qui s'est rendu en prison lui aussi pour rendre visite à un prisonnier, celui qui a donné à manger à l'affamé, à boire à l'assoiffé, etc. C'est une situation qui est décrite, une situation d'amour réciproque dans la proximité de Dieu. Et par conséquent, personnellement, je me refuse totalement à imaginer le paradis. Mais j'ai constaté cette contradiction, qui est presque amusante, à savoir que dans des ouvrages de l'histoire chrétienne, y compris du XVIIe siècle, qui étaient des ouvrages très copieux pour grand public sur les bonheurs du paradis, on les décrit longuement, on donne des dimensions de l'Empire.
Oui, mais on se...
à un lieu près. Hein. Mais en même temps...
C'est incroyable le nombre de questions que le sujet a soulevé.
Formidable. Mais en même temps, un livre auquel je fais allusion porte en exergue au début la formule de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Dieu nous a révélé, entre guillemets, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne s'est pas révélé au cœur de l'homme. Par conséquent, n'essayons pas.
Vous dites que le paradis est indicible dans ce chapitre sur ce coco qu'un œil n'a vu.
Voilà, c'est Saint Paul. Or, cette phrase de Saint Paul a été répétée tout au long de l'histoire chrétienne. Néanmoins, on a imaginé le paradis. Mais maintenant, on ne peut plus l'imaginer. On peut le vivre peut-être par moments, comme les mystiques. J'ai rapproché à cet égard Luther de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je suis persuadé qu'il y a des expériences mystiques dans lesquelles les heureux élus arrivent pendant quelques instants, inchiffrables d'ailleurs, à forcer les portes du ciel. Mais c'est l'exception. Et d'ailleurs, ils se refusent totalement à décrire eux-mêmes. C'est une sorte d'illumination intérieure.
Quel est votre paradis ? Comment vous le concevez personnellement ?
Oui, c'est une question que vous avez raison de poser, parce que je dirais que forcément, on se pose à soi-même la question et les autres vous la posent, surtout si vous écrivez sur le paradis. Alors, je dirais que mon paradis, c'est une sorte d'acte de foi. C'est-à-dire que je crois dans la résurrection du Christ et je crois qu'il nous entraînera avec lui et qu'il nous entraîne avec lui dans sa résurrection. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette très belle iconographie byzantine, fréquente d'ailleurs, hein, notamment à Constantinople et ailleurs, où on voit le Christ qui sort du tombeau. Et il a les deux bras ouverts et par une main, il tend une main à Adam, une autre main à Ève. Et les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, si vous voulez, mais ce sont les sages et les saints de l'Ancien Testament qui ressuscitent avec le Christ. Donc, pour moi, il y a un au-delà vivant de la mort. Naturellement, ce n'est pas nous tels que vous et moi aujourd'hui, mais enfin, ça sera quand même, je crois, notre personnalité qui survivra et la personnalité aussi de ceux que nous avons aimés sur Terre. Je crois profondément aux retrouvailles dans l'au-delà. Et j'ai terminé ce livre sur une phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui avait eu, entre guillemets, une vision de l'enfer et elle dit « Les premières personnes que j'ai vues furent mon père et ma mère ».
Et vous espérez ces retrouvailles.
Je pense que... Alors, j'ai pris une autre formule en démarquant ou en contredisant la formule célèbre de Jean-Paul Sartre dans Huis clos. Il avait écrit « L'enfer, c'est les autres. Pour moi, le paradis, ce sera les autres. »
C'est la formule de Jean-Paul.
Dans la lumière de Dieu.
Aujourd'hui, où l'idée de fin du monde, des dangers pour la planète à venir, etc., est-ce que ça, ce sont des idées qui peuvent, ou des préoccupations qui peuvent justement nourrir à nouveau une espérance pour vous
Oui, alors je rebondirai d'abord sur la question de la fin prochaine du monde. Ce n'est pas une nouveauté, cette crainte n'est pas nouvelle.
Et d'ailleurs, vous les étudiez en parallèle.
Oui, mais parce que justement, je suis aussi tout de même historien de la Renaissance. Et je me suis aperçu que pour Luther, le monde avait encore environ 100 ans à vivre. Christophe Colomb
croyait avoir découvert
presque le pays du paradis, en tout cas, paradis terrestre. En tout cas, Christophe Colomb chiffrait la fin du monde pour l'an 1656. Quelqu'un comme Guillaume Budet, qui était le conseiller culturel de François Ier, le créateur du Collège de France, et je lui rends hommage et remerciements, mais affolé par la montée du protestantisme, il écrit dans son dernier livre, en substance, « Le dernier jour a commencé à tomber ». Voilà ce que pensaient les esprits les plus cultivés de la Renaissance. Les gens de la Renaissance n'avaient pas l'idée d'un progrès de l'humanité. Il croyait que l'humanité était vieille et proche du porc. Bon, voilà qui quand même renverse un peu les idées reçues, voyez-vous. Bon, alors ça c'est un point pour vous répondre. Le second, c'est que je ne sais pas du tout quelle peut être l'histoire du monde futur. Je dirais que je ne m'en préoccupe pas. Naturellement, les scientifiques ont raison de nous alerter sur, je sais que j'entre dans une polémique récente, mais les scientifiques ont raison de nous alerter sur les dangers que nous pouvons faire courir à notre propre terre, et que par conséquent, il faut prendre les conseils de prudence très au sérieux.
Comment vous recevez tout l'apport scientifique sur le cerveau, les dernières découvertes?
Alors, voyez-vous, moi, j'ai eu l'occasion de prononcer...
L'évolution des neurosciences.
Oui, alors, de toute façon, moi, je suis très ouvert...
Tous ces champs.
Très ouvert aux sciences. Hein. J'ai moi-même un de mes fils qui est scientifique, et par conséquent, je ne vais pas jeter la science aux orties. Je crois que l'homme a raison d'essayer de connaître le plus possible. En revanche, il faut qu'il surveille les applications qu'on fait de la science, et qui peuvent être catastrophiques. Ceci dit, en même temps, je dirais que je crois au mystère. C'est-à-dire, et je reprends ici une formule récente du théologien allemand Hans Küng, très connu par ailleurs, dans un petit livre publié en français il y a 2 ans, Petit traité sur le commencement de toutes choses. Et il dit, celui qui ne peut pas voir derrière le rideau n'a pas le droit de dire qu'il ne s'y trouve rien. Et il y a une formule aussi de Leibniz que j'aime beaucoup, qui dit que personne ne pourra jamais répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» La science n'est pas faite pour répondre à cette question. Ce n'est pas son domaine. En revanche, il est normal que, pour ce qui est de la connaissance globale, la science mette sur le chemin d'une réflexion, voire d'une révélation. C'est-à-dire, mettre sur le chemin d'une philosophie de la connaissance et une révélation qui peut dépasser nos connaissances par la science. Et j'ai assez bien connu au Collège de France le mathématicien, c'était un grand mathématicien français, André Lichnerowitz, qui par ailleurs était un chrétien pratiquant, et qui a eu cette formule que j'ai souvent répétée après lui, en le citant, qui disait « Il ne faut pas confondre le fil du téléphone avec le message qui passe dedans ». Et je crois que nous en sommes là. Il nous faut étudier d'aussi près que possible le fil du téléphone ou des ondes, peu importe, mais ça ne nous renseignera pas sur le contenu du message.
Merci Jean Delumeau de nous avoir fait partager tout ce travail d'historien, vos convictions et votre foi.
Merci. Merci de m'avoir invité.